Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Cette semaine, je vous présente le monde amusant et intéressant des late shows, ces émissions de fin de soirée qui mêlent satire, divertissement et information, une institution aux États-Unis. Hi everyone. Ce que vous entendez, c'est le générique de l'émission de Stephen Colbert, le late show le plus regardé des États-Unis sur CBS. Alors c'est celui que je regarde, pas tous les soirs, mais assez souvent. Alors je vois rarement le début en fait, puisque ça commence à 23h35 et à 23h45, heure de New York. Je suis en fait en direct sur RTL dans la matinale de Julien Cellier. Pour une chronique que vous pouvez d'ailleurs également télécharger, aussi en podcast, et qui s'appelle Un air d'Amérique. Voilà pour l'instant promo. Alors, c'est quoi un late show? Un show tardif, si on devait le traduire littéralement. Ce sont ces émissions de fin de soirée, qui débutent vers 23h30 en général. Les horaires changent en fonction des chaînes, mais globalement c'est ça. Après les informations de 23h sur les grands réseaux, c'est une institution aux États-Unis. Elles existent. Ces émissions depuis les années 50 et elles reposent beaucoup sur leurs présentateurs ou présentatrices, mais c'est plutôt un monde masculin, sur leur talent, leur charisme. Ça commence en général par un billet, une sorte d'édito très écrit, parce qu'il y a toute une armée de dialoguistes et de scénaristes derrière ces présentateurs, des plumes qui écrivent ces sketchs, qui sont souvent très, très bien ciselés. C'est toute une armada que l'on voit d'ailleurs dans un film assez récent qui s'appelle Late Night avec l'excellente Emma Thompson et qui raconte cet univers parfois impitoyable aussi des late shows. Des sketchs donc, des billets d'humour, d'humeur. On peut aussi voir dans ces émissions de la musique en live, des invités bien évidemment. Alors le maître mot c'est plutôt la convivialité avec les invités qui sont rarement passés sur le grill, c'est plutôt bon enfant. C'est d'ailleurs pour ça que les politiques, qui au début ne venaient pas dans ces émissions, sont finalement habitués car ils sont souvent présentés sous un jour plutôt favorable. Pas toujours, on y reviendra, mais c'est plutôt bienveillant. Alors, les animateurs de ces late shows sont des stars aux États-Unis. Le pape, le créateur du style, s'appelait Johnny Carson. En 1962, on lui confie les rênes du Tonight Show sur NBC. Et c'est lui qui va donner les bases de ce type d'émission avec donc un billet d'introduction, une sorte d'éditorial assez drôle, des sketchs, des références à l'actualité, des invités. Voilà, c'est toute une recette. Et il faut qu'il y ait quelqu'un pour mélanger tous ces ingrédients. C'est pour ça que l'animateur est vraiment essentiel. Alors en 1992, la succession du père des Late Show, la succession de Johnny Carson, donc a donné lieu à une bataille entre héritiers. NBC a confié les rênes à Jay Leno après en avoir fait la promesse à David Letterman, un nom qui vous dit sans doute quelque chose. Ce dernier est donc parti à la concurrence chez CBS où il présentera The Late Show with David Letterman. Et sa dernière émission rassemblera près de 14 millions de téléspectateurs. C'est pour vous donner une idée de l'importance de ces émissions aux États-Unis. Alors aujourd'hui, les principaux shows sont celui de Stephen Colbert sur CBS, de Jimmy Kimmel sur ABC, Jimmy Fallon sur NBC et Trevor Noah sur Comedy Central. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle les late late shows, c'est-à-dire des shows encore plus tardifs, bien après minuit, notamment James Corden sur CBS. James Corden, vous l'avez sans doute vu, c'est lui qui fait ses vidéos très célèbres à l'intérieur d'une voiture avec une star où il les fait chanter. Il a récemment également fait une interview avec le prince Harry dans un bus, autre nom de ses shows très tardifs, Seth Meyers sur NBC. Alors, c'est un monde plutôt masculin, je vous le disais tout à l'heure, même s'il y a quelques femmes comme Lily Singh ou Samantha Bee sur la chaîne payante TBS. Alors, on va écouter quelques extraits pour voir le style, pour ceux qui ne connaîtraient pas ou très peu les late shows. Comme il y a énormément de sketchs, il y en a des milliers hein, depuis des années, des milliers d'extraits possibles, je me suis concentré sur des extraits concernant la France. Et on va commencer par un extrait où on s'en prend plein la figure. amicalement, mais on s'en prend plein la figure quand même. C'est dans le late show de Trevor Noah sur Comedy Central. Trevor Noah, c'est peut-être le plus talentueux de cette génération. C'est une star ici. Il a présenté très récemment les Grammy Awards. Quand on n'est pas en mode Covid, il enregistre d'ailleurs son émission à quelques mètres du bureau d'RTL, juste au bout de la rue. Et ce que vous allez entendre date de 2018, plus exactement de juillet 2018, juste après la victoire de la France à la Coupe du Monde de football. Trevor Noah, qui est sud-africain, sud-africain noir, c'est important pour la suite, avait parlé dans un de ses sketchs d'une victoire d'une équipe africaine, en parlant de l'équipe de France. Ça avait fait polémique. L'ambassadeur de France aux États-Unis à l'époque, Gérard Araud, lui avait répondu. Il avait répondu pour se plaindre, en substance, en disant que, en parlant d'une équipe africaine, Trevor Noah remettait en cause la citoyenneté française des joueurs.
Just
Alors Trevor Noah
legitimizes the
lit
ideology
la
which
lettre.
claims whiteness as the only definition of being French. So now, here's the thing. All right. First
Et
things first.
il répond.
Black people all over the world were celebrating the Africanness of the French players.
Et selon lui, son argument, c'est de dire que dans le monde entier, les Noirs ont célébré la victoire des joueurs africains de l'équipe de France. Et il continue, je trouve bizarre cette réponse de dire qu'ils ne sont pas africains, qu'ils sont français. Pourquoi ils ne pourraient pas être les deux? Alors là, on n'est plus dans l'humour, c'est assez tranchant. Je ne vais pas rentrer sur le fond, qui a raison, qui a tort. Pas dans cet extrait-là, mais Trevor Noah va un peu loin aussi dans l'argumentation, et en même temps adresser une protestation officielle comme ça, ce n'était pas forcément une bonne idée, notamment parce que l'animateur va forcément avoir le dernier mot. Autre extrait, cette fois, il s'agit de John Oliver. Lui, il est sur HBO. Lui aussi est très talentueux. Il présente le Late Week Tonight. Il a la particularité d'avoir un débit très rapide. Et là, il s'intéresse à la campagne électorale en France lors de la dernière élection présidentielle. Il s'était notamment intéressé à l'un des candidats, Jacques Cheminade, notamment sur sa volonté d'avoir une politique spatiale ambitieuse et notamment aller sur Mars.
Aujourd'hui, on n'a pas de vraie politique de l'espace. On traîne des vieux objets brinque-ballants comme la vieille fusée de Star Wars. Alors ça marche au Star Wars avec l'espèce d'ours et Larry Skywalker, mais ça marche pas dans la réalité.
Alors effectivement, Larry Skywalker au lieu de Luke et Chewbacca qui serait un ours, ça fait rire les Américains. Dernier extrait, Stephen Colbert sur CBS. C'est le late show le plus suivi aux États-Unis.
Welcome, monsieur et madame, to the late show.
J'ai choisi une intervention après l'incendie de Notre-Dame. Là, il ne se moque pas du tout de la France, bien au contraire. Il paraît choqué et très attristé par ce qui vient de se passer, comme ont été d'ailleurs beaucoup d'Américains à l'époque. Et il va plutôt se moquer du président américain de l'époque, Donald Trump, notamment quand Donald Trump a fait cette proposition par tweet. En disant peut-être qu'il faudrait que les Français envoient des bombardiers d'eau pour éteindre l'incendie. Alors, Stephen Colbert se moque de lui sur le thème. C'est sûr que les pompiers français n'avaient pas pensé à combattre le feu avec de l'eau.
Quelle horreur, sacré bleu! Il dit que nous devons agir quickly. Get the hoses, get the water. Why didn't
Heureusement
we think
que
of water?
Donald Trump a fait un tweet.
Voyons,
on allait essayer d'éteindre l'incendie avec des fromages.
Delicious cheese.
Et Stephen Colbert lit la réponse assez bien sentie à l'époque de la sécurité civile française.
Des centaines de pompiers luttent par tous les moyens, excepté des bombardiers d'eau qui pourraient totalement détruire les infrastructures de la cathédrale.
Donald Trump, qui a été l'objet, pas exclusif, mais extrêmement présent des late shows pendant 4 ans. Alors, il y a toujours eu de la politique dans ces émissions, notamment des invités politiques, mais les animateurs n'étaient pas très militants, c'était plutôt neutre, c'était plutôt bienveillant. Et avec l'élection de Donald Trump, il y a eu une fronde anti-Trump dans ces émissions du soir, globalement. Depuis l'élection de Joe Biden, d'ailleurs, on parle beaucoup moins politique. Donald Trump, qui a été un habitué de ces émissions, de ces late shows, c'était un bon client, c'est une bête de télévision, hein, et c'était souvent une garantie d'audience. Il a même présenté sur une soirée le Saturday Night Live. Et Jimmy Fallon l'avait reçu sur NBC pendant la campagne électorale de 2016. Et il y avait une séquence qui avait fait beaucoup parler. Donald Trump était là en mode tranquille et Jimmy Fallon lui demande s'il peut lui ébouriffer les cheveux. Il y a toujours eu des rumeurs comme quoi Donald Trump avait en fait une perruque. Donald Trump accepte. Alors ça a fait beaucoup rire sur le moment, mais ça a été aussi vu comme de la connivence. Et Donald Trump, qui était déjà devenu très polémique dans ses propos sur les femmes, sur les étrangers, et ça a fait du mal en fait à Jimmy Fallon. Son show était leader à l'époque. Il a commencé à perdre du terrain et être rattrapé par celui de Stephen Colbert. Stephen Colbert, Jimmy Fallon, David Letterman, tout ça c'est des noms que vous avez entendus parce que ces animateurs, je vous le disais, sont des personnes influentes. Autre exemple, Jimmy Kimmel sur ABC. Lui, il s'est lancé dans la défense de l'Obamacare sur la protection santé des Américains, notamment les plus faibles. Lorsque l'administration Trump a voulu s'attaquer à cette couverture santé au plus grand nombre, Jimmy Kimmel a notamment raconté l'histoire de son bébé qui a dû subir plusieurs opérations cardiaques. Alors il a reconnu que lui, il avait les moyens de payer ses opérations, mais il expliquait que pour une famille pauvre, l'enfant aurait pu mourir si ses parents n'avaient pas de couverture santé. Alors pendant plusieurs jours, il a commencé toutes ses émissions par un billet sur ce thème, et Jimmy Kimmel a participé à faire changer d'avis quelques sénateurs, notamment des sénateurs républicains, et le projet de loi n'est pas passé, en partie grâce à lui. Autre exemple du poids que peuvent avoir les animateurs de Late Show, Jon Stewart, c'est l'ancien animateur du Daily Show, très impliqué sur les problèmes de santé des policiers, des secouristes, tous ceux qui sont intervenus après les attentats du 11 septembre. Beaucoup ont eu de graves problèmes de santé, ont développé des cancers, en sont morts en raison des produits toxiques qu'ils ont respirés pendant des heures et des jours. Alors Jon Stewart s'est battu notamment pour que les indemnités ne soient pas réduites. Pour lui, c'est une juste récompense pour leur acte de bravoure. Et en septembre 2019, il est auditionné au Congrès, au Capitole, et il fait ce discours très très fort. Voilà ce qu'il dit. Derrière moi, il y a une salle remplie de secouristes du 11 septembre et en face de moi, un congrès presque vide. Il n'y avait pas beaucoup de parlementaires. Eux ont répondu en 5 secondes. Ils ont fait leur travail avec courage, bravoure et ténacité. 18 ans plus tard, faites le vôtre. Cette intervention avait touché les Américains et les parlementaires qui s'étaient mis d'accord pour étendre le fonds d'indemnisation sur la durée. Alors on le voit, les late shows, ce ne sont pas que des émissions d'humour. Elles donnent beaucoup de place et d'importance à l'actualité avec des différences. C'est un peu ce que fait Quotidien en France, sauf que Quotidien, ce n'est pas tard, c'est en début de soirée, mais ce sont un peu les mêmes recettes. En tout cas aux États-Unis, au fur et à mesure que ces émissions prenaient de l'ampleur, eh bien, les hommes et les femmes politiques y ont vu un intérêt. Et c'est devenu même une aubaine parce que c'était une façon de toucher d'autres téléspectateurs, des téléspectateurs plus jeunes et avec une audience assez importante. Et celui qui a tout changé, c'est Bill Clinton. On est en 1992, en pleine campagne électorale. Il est un peu en difficulté et ses conseillers ont cette idée, lui faire jouer du saxophone. Il joue plutôt bien d'ailleurs, et en plus avec des lunettes noires, donc une belle mise en scène. Sur le moment, c'est assez critiqué. On lui dit que ce n'est pas une posture présidentielle, qu'un candidat à l'élection présidentielle n'a pas à faire ça. Mais ça a fonctionné. Sa cote a commencé à grimper. Il a gagné l'élection. Alors, on ne va pas résumer ça à cette performance, hein, mais ça a participé à l'amélioration de son image. Avoir son late show, c'est aussi un positionnement pour les chaînes de télévision. Pour preuve, Fox News vient de débuter le sien avec des thèmes assez variés, la politique bien sûr. L'autre jour, je regardais et c'était un débat sur l'amitié, savoir si on pouvait compter sur ses amis et si on en avait beaucoup, etc. Ça marche plutôt bien puisque pour la première, ce late show sur Fox News a battu ses concurrents directs, notamment MSNBC et CNN. Des thèmes politiques bien sûr essentiellement conservateurs puisqu'on est sur Fox News. Parmi les débatteurs, il y a des invités récurrent comme Tyrus, qui est un ancien catcheur et ancien garde du corps de Snoop Dogg. Et l'invité hier soir, c'était Eric Trump, l'un des fils de Donald Trump. Voilà pour cette plongée dans le monde des late shows. Si vous voulez en savoir plus, si ça vous intéresse, CNN propose une série documentaire sur l'histoire des late shows. Ça n'a pas encore été diffusé, ça commence début mai, je crois, le 3 mai. Mais vous pourrez le trouver assez facilement sur Internet. On se quitte avec Jimmy Fallon qui officie sur NBC. Comme tout le monde pendant l'épidémie, il a dû faire les émissions depuis son domicile. Et il y a un an, il faisait ce duo très réussi avec Sting sur ce morceau « Don't stand so close to me ». Thank you and goodbye. A young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Venez d'écouter Une lettre d'Amérique. Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.